Chapitre 37. Silencieux, ils avançaient dans les pas de Julie à plus de 700 mètres au-dessus de Saga, sur une route sinueuse où planait la mort noire. Gabriel voyait sa fille devant lui. Il devinait sa frêle silhouette, ses longues jambes. Elle était là. Elle venait juste de descendre du bus et le véhicule repartait avec un bruit de piston après avoir fait demi-tour sur un terre-plein. Elle se mettait à marcher, seule. C'était pile à cet emplacement, mais 12 ans plus tôt. Il observa attentivement cet endroit désormais réduit à une bande de gravier entre bitume et verdure. Flanc de montagne à gauche, forêt à droite, un paysage indompté sur des kilomètres. Où allais-tu, Julie ? Une centaine de mètres plus loin, une petite voie faite de caillasses et de terre s'enfonçait entre les mélèzes, barrée d'un panneau en fer dévoré par la rouille, où l'indication « propriété privée » était à moitié effacée. Gabriel imagina la frêle silhouette de sa fille s'engager par là. Dans l'habitacle, les deux hommes ne parlaient pas. Le silence s'était de nouveau installé entre eux à leur retour dans la voiture. Gabriel avait vu la difficulté avec laquelle son ex-collègue avait redescendu le sentier. 10 fois, il avait eu envie de lui dire combien il regrettait son geste, cette fameuse nuit du règlement de compte. Mais peut-on regretter ce dont on ne se souvient même pas ? Le passé était le passé, et des excuses ne pourraient rien effacer. Son trou de mémoire ne changerait pas l'homme qu'il était. La poigne glacée de novembre transformait l'infinie forêt en un festival d'ombres lugubres. Les troncs serrés et noirs isolaient le véhicule dans une bulle d'inconnu, hostile et sauvage. Gabriel imaginait sa fille sur le bas-côté, avec son sac à dos et ses baskets, comme lorsqu'il la voyait dans le rêve. Elle tirait sur les épines des pins, elle les reniflait, soufflait dessus, avant de poursuivre son chemin. Alors comme ça, tu passais la journée ici, puis tu rentrais à la maison, t'enfermais dans ta chambre comme n'importe quel ado de ton âge. Et en cachette, tu écrivais dans ce carnet. Plus loin, le chemin longea l'arête du cirque glaciaire par la gauche, offrant un panorama à couper le souffle. 80 mètres en contrebas, on devinait le lac Miroir. Des perspectives plus profondes dévoilaient la vallée piégée dans la grisaille. Après 2 ou 3 minutes où il avait été impossible de rouler à plus de 10 km/h à cause des pierres et des nids de poules, ils aperçurent une maison dévastée, nichée au bout d'une allée envahie par la végétation. Absence de portes, volets et fenêtres brisées, toiture à la charpente visible. « Qui habite ici ?» demanda Gabriel. « Je n'en sais rien. » J'ignorais même qu'il y avait une maison. Ils allèrent jeter un œil à la demeure abandonnée par acquis de conscience. Les pièces étaient vides, le plancher ravagé. Le plafond menaçait de s'effondrer. Ils sortirent vite et délaissèrent leur véhicule. En descendant à l'arrêt sapinière, Julie avait forcément fait ce trajet à pied. Sa destination ne devait plus être très loin, en espérant que ce ne fût pas cette ruine. Ils suivirent donc la voie. D'un coup, le paysage s'ouvrit sur le lac Noir, la lèvre du barrage d'enrochement et son bâtiment cubique de maintenance. De là partaient les tuyaux de conduite forcés à destination de la vieille centrale hydroélectrique. Si on faisait abstraction de cette verrue anthropique, les lieux respiraient la beauté et la liberté. Les montagnes encerclaient l'étendue d'eau, venant y mourir en pente douce et y déversant leur glace fondue dès l'arrivée des premiers rayons de soleil printanier. Entre les sapins, les eaux vives d'un torrent chantaient. Paul inspira à plein poumon, les mains sur les hanches, et pointa du doigt un autre chalet en rondin, enfoncé d'une 10aine de mètres dans la forêt. La route de terre s'arrêtait là. C'était donc la seule demeure des environs. La toiture en tuiles d'ardoise descendait presque jusqu'au sol. Les volets étaient fermés. Les deux hommes s'approchèrent. La poussière qui recouvrait la vitre de l'unique fenêtre d'une remise à outils, à droite de l'habitation principale, empêchait de voir à l'intérieur. Paul frappa à la porte. Son acolyte était nerveux. Il revoyait les dessins odieux, la nudité de sa fille étalée sur papier à l'encre de Chine, les labyrinthes que ce taré la forçait à résoudre. Y avait-il la moindre chance que l'auteur de ces horreurs vive ici ? Pas de réponse. Paul renouvela les coups, tapant cette fois du plat du poing.
« Gendarmerie nationale, ouvrez, s'il vous plaît !»
Gabriel, observant que le cadenas de la remise n'était pas verrouillé, s'y aventura. Du coude, il enfonça un interrupteur. Une ampoule nue brilla au plafond. Des outils et un vélo de course sans roue encombraient le passage. Il souleva une bâche opaque, étalée sur le sol, et dévoila un pot de peinture fermé, mais déjà utilisé. Des coulées rouge sang avaient dégouliné sur le rebord, encore fraîches. Des pinceaux trempaient dans des bouteilles en plastique coupées en deux. Là aussi, l'eau était rouge. Il avisa ensuite un établi. Agrafé sur un panneau de liège, des photos de famille jaunies et à demi effacées. Un homme, une femme, un enfant d'à peine 2 ans. Des sourires, des pâtés de sable sur la berge d'un lac. Elles s'affichaient par centaines, superposées en un pêle-mêle inextricable, mélangées à des articles de journaux et des tracts qui concernaient la disparition de Julie. Des gros titres. Le drame de saga toujours pas résolu. 1 an après, l'affaire piétine. Qu'est devenue Julie Moscato ? Le propriétaire de la remise avait tout découpé, répertorié avec soin, souligné des phrases, entouré le visage de la jeune fille avec obsession. Gabriel retenait son souffle. Il connaissait cette famille. Derrière lui, la porte grinça. Paul s'avança à son tour en silence, découvrit le pot de peinture, puis l'enchevêtrement de photos.
« C'est pas vrai »,
souffla-t-il abasourdi. Il désigna le gamin au milieu de ses parents. « C'est David, le copain de ma fille. » Paul s'appuya sur le rebord de l'établi, sous le choc. Il aperçut, par le battant resté ouvert, dissimulé à l'arrière du chalet, la voiture de ce dernier. Aucun doute, le petit ami de Louise était leur corbeau. Un vrai coup de poignard dans le dos. Gabriel avait désormais les yeux rivés sur un album à la couverture rigide, posé au fond d'un casier en plastique. Sur chaque page, insérés dans des encoches, des clichés en couleur imprimés sur papier glacé d'une qualité parfaite. Sur le premier d'entre eux figurait un homme, dont la partie haute était cachée par un drap bleu, de ceux utilisés pour les opérations chirurgicales ou les autopsies. Une bande élastoplaste, pleine d'auréoles sombres, soutenait un menton perclus dans taille noire et maintenait la bouche de l'anonyme fermée. Le bas du nez, à peine visible, avait pris une teinte violette. Gabriel pensa à un cadavre accidenté d'une fraîcheur toute relative. Il tourna les pages, qui dévoilèrent des gros plans de cicatrices sur des fémurs, des bouches qui semblaient encore hurler. Ici, un pied masculin marbré d'auréoles violacées apparaissant sous un tissu blanc. Là, une cuisse de femme, avec une tache de naissance en forme de tête de cheval. Plus loin, une main jeune aux ongles vernis. Les veines du bras qui pendaient de la table en acier avaient été tranchées. Suicide. D'où venaient ces photos de cadavres ? David Esquimet avait-il photographié les morts confiés à son entreprise de pompes funèbres ? Les corps étaient comme dissimulés de façon presque pudique. Il était impossible de les identifier. « Quel taré ! » tonna Paul. Il referma l'album et d'un bref mouvement de tête indiqua qu'il fallait ressortir à présent. Au moment où il franchissait le seuil de la remise, David Esquimet sautait les 2 marches du perron du chalet et s'élançait en courant droit devant lui. Quand Paul capta son regard durant quelques instants, le monde s'effondra autour de lui. Il brandit son arme.
« Fais pas le con, David !»
Le fuyard ignora l'invective. Habillé d'un vieux survêtement avec souhait à capuche et de baskets noires, il s'enfonça entre les troncs à grande foulée.